Matin première,
6h-8h30.
La politique est un cycle, elle est faite d'orage et d'éclaircies. C'est l'accroche de votre podcast politique, les 4 saisons qu'on vous propose chaque jeudi. Et en ce début juillet, on lance une version d'été. On a donné longuement la parole à 4 personnalités marquantes au rythme des 4 saisons. Et on commence à 7h44 par un visage de la crise sanitaire. Leïla Belkhir, infectiologue, qui s'est invitée régulièrement sur vos écrans et dans vos oreilles. Avant de démarrer l'interview, petite présentation sonore de Leïla Belkhir avec Iman Messoudi.
C'est l'histoire d'une jeune femme médecin qui passe de l'ombre à la lumière à cause d'un virus.
Leïla Belkhir, vous êtes responsable de l'unité infectiologique aux cliniques universitaires Saint-Luc.
Nous sommes le 11 mars 2020. C'était encore le monde d'avant, celui où le mot confinement n'existait pas dans notre vocabulaire quotidien, avant la bascule vers l'inconnu.
Ce confinement va débuter donc demain, mercredi midi, jusqu'au 5 avril.
Un an plus tard, Leïla Belkhir ne se doutait pas que son nom serait encore dans la tête de nombreux Belges. L'an dernier, elle avait décidé de prendre la parole pour que le terrain soit entendu alors que la plus grande crise sanitaire de notre histoire approchait.
Sur le terrain, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué de continuer à travailler, de mettre en place des mesures qui sont nécessaires et de devoir gérer parfois des réactions de panique.
Son expertise dans le domaine des infections, son ton clair, sa pédagogie, sa franchise ont séduit les médias et le public. À 42 ans, cette Belge d'origine tunisienne qui a grandi à Charleroi a toujours voulu devenir docteur. Après des études à Namur et à Bruxelles et une spécialisation plus tard, la voilà chef d'unité dans un grand hôpital et chargée de cours à l'UC Louvain. Derrière ce parcours impeccable et une expression toujours sérieuse dans les médias se cache une personnalité joviale qui aime rire et faire la fête, jamais avare de vidéos délirantes avec ses 3 filles. Son rôle d'experte auprès de la commission spéciale Covid-19 du Parlement fédéral n'y changera rien. Comme le chante Arthur H dans ce morceau que Leïla Belkhir affectionne particulièrement.
Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser.
Après le Covid, après la médiatisation, jamais elle ne cessera de danser.
Alors Thomas Guédis, c'est vous qui allez mener ces interviews. Ça change un peu évidemment des invités habituels, hein, ces grandes interviews de l'été. C'est quoi le pitch pour bien comprendre, Thomas ?
Alors le pitch, c'est tout simplement prendre le temps d'écouter 4 grandes personnalités francophones. Le but, c'est pas de refaire chronologiquement toutes les saisons, mais de profiter en fait de les entendre sur plein de dossiers et de lier les saisons à certaines thématiques. L'hiver, c'est un peu la solitude, la prise de tête. L'été, c'est les grands projets, les rêves. Eh bien, quels sont justement leurs défis à venir, leurs regrets de l'année ? On les entend en fait sur plein d'éléments de l'actualité.
Les 4 saisons de Leïla Belkhir, c'est avec vous Thomas Guédisseux.
Bonjour Leïla Belkhir.
Bonjour.
Alors avec quelle saison on va commencer ? Quelle est votre saison préférée ?
Ma préférée, j'hésite entre le printemps et l'été, mais disons l'été.
Allez, on va commencer par l'été, les réussites, les success stories, les pauses aussi, un peu de rêve. C'est quoi le grand succès selon vous en ce moment ?
Le grand succès pour l'instant, c'est quand même la vaccination, clairement, qui montre que quand il y a pas mal d'efforts qui sont réunis en termes scientifiques. Il y a des États aussi qui ont beaucoup investi. Il y a eu de partage de connaissances, mais on a pu aller quand même très vite. Et clairement, on a accueilli cette vaccination avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. C'était quand même assez exceptionnel de se dire qu'un an après le début de cette pandémie, nous avions des vaccins.
Avec quand même peut-être un petit bémol, c'est que ça reste un privilège de pays riches.
C'est un grand bémol.
Et que le virus circule ailleurs, même si on va presque être tous vaccinés.
Tout à fait. Et c'est là aussi un des grands enjeux. C'est de se dire que maintenant, ça va mieux en Belgique. Et tant mieux, ça va mieux dans pas mal de pays. Vraiment, on ne peut que s'en réjouir. Mais ça reste une pandémie. Et donc, si ça dérape, entre guillemets, dans l'autre bout de la planète, ça risque d'avoir un retentissement aussi chez nous. Donc, je crois qu'il faut vraiment, effectivement, faire en sorte que tous les pays, en tout cas, aient les mêmes accès, que ce soit pour les traitements ou pour la vaccination.
Alors Leïla Belkhir, vous êtes médecin. Oui. Parmi vos staffs, dans le monde médical, certains hésitent encore à se faire vacciner. Est-ce que vous comprenez ?
Alors tant je peux comprendre qu'on se pose des questions, et je trouve ça plutôt sain de se poser des questions. C'est vrai que tout a été vite et que donc on se demande pourquoi, comment, etc. C'est logique. Maintenant, quand on est soi-même soignant, et surtout quand on a été confronté aux dégâts et aux drames, on a vraiment vécu des drames aussi avec cette crise Covid, j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'en tant que soignant, alors qu'on se doit de protéger et de tout faire pour protéger les personnes que l'on soigne, qui sont souvent des personnes fragiles ou plus vulnérables. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse encore se faire, enfin hésiter à se faire vacciner maintenant.
C'est le cas dans certaines équipes où vous travaillez, il y a des gens qui ne sont toujours pas vaccinés.
Un peu partout, oui, il reste encore quelques personnes qui ne le sont pas, et on a vécu aussi à Saint-Luc, malheureusement, parfois des contaminations qui se faisaient au sein de l'hôpital, où la porte d'entrée était une personne non vaccinée qui était positive, avec quelques symptômes, et puis voilà. Donc je crois que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. À partir du moment où on soigne les gens, ben, je crois qu'il faut vraiment tout faire pour pouvoir faire son métier en étant le plus sécurisant pour les patients possible.
Si vous posez cette question de la responsabilité, c'est qu'à un moment donné, il faudra agir, rendre obligatoire la vaccination pour certains métiers comme les soignants. C'est envisageable?
Ben, en tout cas, certains le demandent publiquement, et je pense qu'il faut y réfléchir, oui. Alors je ne dis pas qu'il faut l'imposer du jour au lendemain, mais il faut vraiment... On a maintenant du recul par rapport à la vaccination. Les premières grosses études ont commencé en juillet 2020, nous sommes en juillet 2021. Donc il y a vraiment maintenant quand même un certain recul.
Donc vous plaidez pour cette obligation, ça existe? Quand on est soignant, on doit se faire vacciner? Alors, obligatoirement pour d'autres maladies?
Pour l'hépatite B, il faut être vacciné, mais là parce qu'il y a un risque pour le soignant aussi lui-même. Donc je ne serai pas tout noir, tout blanc pour dire voilà, maintenant il faut rendre obligatoire. Je pense qu'il faut encore continuer à bien expliquer, essayer de comprendre, parce que parfois on a du mal à comprendre pourquoi certains hésitent encore. Mais c'est une question qui doit effectivement, je pense, vraiment être débattue d'un point de vue voilà, démocratique, mais il faut se poser la question.
Dans votre hôpital, quand vous avez discuté, vous avez identifié un peu les causes?
Ben, les causes, je pense qu'il y a certaines fake news qui ont vraiment pris trop d'ampleur, en particulier la vaccination et la stérilité. Certains disent oui, ça va d'office aussi engendrer des maladies, ça va d'office engendrer des cancers, etc.
Donc, sur la question de la fertilité, les études sont claires ou il n'y a pas d'études?
Il n'y a rien qui démontre que... En fait, c'est parti d'une fake news, clairement. C'est parti du fait qu'il y a une protéine qui est impliquée dans le placenta, qui ressemble un petit peu, qu'il y a quelques séquences similaires avec la protéine S, cette fameuse protéine qui entoure le virus. Et donc, certains ont dit, ah ben voilà, ça se ressemble, et donc si on a des anticorps contre la protéine S, ça va engendrer un problème d'infertilité. De un, il y a des personnes qui ont eu le Covid, des femmes, et puis qui ont eu des grossesses. Il y a eu des grossesses durant les études vaccinales, il y a eu des grossesses aussi après le Covid, et donc, et dans les études animales, on n'a jamais démontré un effet de la sorte. Je crois qu'il faut pouvoir dire, quand on est médecin, ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Mais en tout cas, ne jamais se permettre d'inventer. Et certains, malheureusement, sur les réseaux sociaux, partent dans des théories complètement farfelues, mais en disant que c'est la vérité, alors que ça ne l'est pas.
Alors, on va rester justement avec ces médecins qui prennent la parole dans les médias, pour rester toujours dans notre ambiance de l'été, mais en parlant un peu des success stories, des réussites aussi. Vous êtes une femme issue de la diversité,
oui.
Professeure d'université, propulsée dans les médias. Vous êtes consciente que vous êtes devenue un symbole?
Je ne sais pas si...
Ça vous revient en tout cas?
Oui, ça m'est revenu par rapport à certaines jeunes filles aussi, comme vous dites, issues de la diversité. Donc moi, mes parents sont d'origine tunisienne. Alors si ça peut encourager certains ou certaines à se dire, ben voilà, quel que soit le milieu dont on provient... on peut en tout cas au moins essayer, ben alors c'est chouette, vraiment.
On va passer à une autre saison, l'automne. Une saison qu'on associe aux tensions, notamment aux changements, aux claquements de portes. Les experts dans la crise ont été sous le feu des critiques. Est-ce que vous, Laila Belkhir, vous avez subi des pressions politiques?
Non. Honnêtement, oui, j'ai eu des contacts avec des politiques parce que parfois ils nous interpellaient aussi pour avoir notre avis sur la situation. Mais de pression en tant que telle, non. Après, moi, j'ai toujours été, je pense, mais au boulot aussi, à dire ce que je pensais, ce qui me paraissait être le plus juste et le plus raisonnable. Et peu importe le politique qui soit en face de moi, quelque part. Chacun son métier, je trouve. Moi, je ne suis pas politicienne, je ne dois pas plaire.
Et vous n'avez pas fait de politique, parfois?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par politique. Si c'est délivrer un message, peut-être que ça peut être interprété comme tel. Mais en tout cas, il n'y a pas de but ou d'engagement politique dans le sens de vouloir être élu, de vouloir plaire, parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. Les politiques doivent plaire. Ils ont un électorat. Quand on est médecin comme moi et qu'on ne veut pas faire de politique, ben, on est quelque part plus libre aussi de dire ce que l'on a envie de dire, parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière.
Et parfois, vous leur avez renvoyé la balle. On va écouter un extrait d'une émission. À votre avis, c'était en décembre dernier.
toute cette cacophonie qu'il y a au niveau politique, honnêtement, c'est pas, désolée de le dire, mais c'est pas non plus le bon exemple. Quand moi je suis pas d'accord, ou de façon générale en médecine, si entre médecins on ne partage pas la même façon de faire pour un patient, on va pas commencer à dire publiquement devant le patient, devant l'assistant, on prend son téléphone, on règle les choses entre nous et puis ensuite on vient avec un message cohérent. Et ça manque au niveau politique.
Quand vous dites cette phrase, à ce moment-là...
Oui, je suis fâchée.
Vous êtes fâchée. Et quelle est la réaction alors de vos interlocuteurs politiques après, en coulisses?
Bon, une des réactions a été de dire « Ah oui, mais vous aussi, parfois, vous n'êtes pas d'accord entre vous. » Donc, voilà. Non, ce qui, personnellement, m'énerve parfois, c'est que j'ai l'impression qu'on perd énormément de temps à tergiverser sur des détails, et que ça donne un sentiment que certains politiques, pas tous, sont en décalage complet avec ce qui se passe sur le terrain.
C'est votre sentiment, ça? C'est le grand reproche de la classe politique?
En tout cas, au début de la crise, clairement, oui. Et puis, à certains moments, oui. D'ailleurs, au début de la deuxième vague, en automne, justement. Et donc, toutes ces petites guéguerres, oui, c'est vrai que c'est parfois énervant.
On va passer à l'hiver, oui. La solitude, aussi quelques échecs. Est-ce que vous avez douté durant cette crise? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des moments où vous avez dit « là, c'est plus possible, on arrive quasi à un point de rupture » ?
Douter, je trouve aussi que c'est sain, parce que ça permet de se remettre en question. Est-ce que j'ai douté? Est-ce qu'on a douté? Oui, souvent.
Est-ce que vous avez craqué?
Craqué, non, je crois pas. Parfois, comme tout le monde, un petit coup de mou, et oui, parfois pleurer un peu dans sa voiture, mais je pense que la crise, elle a été tellement difficile aussi pour d'autres personnes qui ont perdu leur boulot, qui se sont retrouvées parfois dans des petits appartements avec les enfants, enfin donc je...
On parle au passé, là? C'est un peu fini?
En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt de belles perspectives qui s'offrent à nous, et j'espère, comme je crois beaucoup, qu'on va retenir, les leçons du passé, donc on va anticiper, que la vaccination qui montre ses effets va continuer et qu'on ne va pas avoir une mauvaise surprise avec un variant. Donc oui, j'espère que c'est du passé et que maintenant on va arriver dans une gestion de risque qui est tout à fait différente.
On reste en hiver, mais on va parler de la situation dans les hôpitaux, des infirmières, du personnel soignant. Alors on ne sait pas si on le met en hiver ou on bascule déjà au printemps avec les promesses. On a eu plein d'intentions politiques, un accord de gouvernement qui allait refinancer la sécurité sociale et le personnel. Et pourtant, on a encore des mouvements de grogne, une détresse. C'est justifié? Comment expliquer ce paradoxe?
Je pense que c'est justifié et je crois que c'est surtout au niveau infirmier, infirmière, avec maintenant ces nouveaux barèmes qui vont arriver et où il y a vraiment, je crois quand même, un manque de reconnaissance de la pénibilité du métier.
Le système hospitalier, en ce moment, est malade, vous direz jusque-là?
Oui, il est en souffrance, ça je pense vraiment. Et il est en souffrance aussi parce qu'on ne peut pas minimiser ce qui s'est passé on a trinqué, clairement. Et il y a eu des dégâts. Il y a certains membres du personnel qui ne sont toujours pas revenus travailler parce qu'ils ont été traumatisés par... Il y a eu quand même énormément de pression aussi... On a eu beaucoup de décès, on n'est pas forcément toutes et tous formés pour gérer ça. Beaucoup de détresse avec certaines familles. Enfin voilà, comme ça, quand je parle, il y a vraiment des histoires qui me reviennent, et ça partout en Belgique. Alors, on a tenu, je pense que la Belgique a bien soigné avec les moyens qu'elle avait, mais clairement bien soigné ses patients. Mais ça a quand même été au prix de beaucoup de belles choses, mais aussi de beaucoup de souffrances. Et ça, il faut l'entendre.
Parce qu'il y a quand même ce chiffre, 25 000 décès, oui. Covid. En Belgique, on va passer au printemps, oui. Aux espoirs, les grands projets. Quelles promesses on peut faire, surtout pour éviter les erreurs de l'été dernier?
Mais je crois qu'il faut, maintenant en été, alors que c'est plus calme, il faut prévoir l'automne, il faut prévoir l'hiver.
Donc est-ce qu'il y a une conscience politique de cet enjeu-là? Ou justement la pression politique diminue?
Mais j'ai
avec
un peu peur qu'avec la diminution de la pression, parce que ça va mieux... qu'on ne prépare pas, justement, novembre, décembre. Je pense que les gens sont en attente dans plein de secteurs, au niveau les théâtres, les cinémas, les restaurants, enfin, ils sont vraiment en attente d'avoir quelque part...
Un protocole robuste pour éviter les yo-yos, les fermetures.
Exactement.
C'était l'objet de votre sortie, mettre en place un label Covid. On en a beaucoup parlé à l'époque, on n'en parle plus, en fait.
Oui, et je pense que certaines villes commencent à y travailler, mais je n'ai pas l'impression, j'espère me tromper, que c'est en cours partout. Et donc je pense qu'il faut vraiment avoir un peu plus de finesse et de pouvoir, donc justement, oui, créer que ce soit un label ou peu importe, mais des endroits qui soient sûrs et sécurs.
Cette gestion du risque, elle passe par notamment des labels pour les secteurs, mais aussi par des mesures concrètes pour nous tous. Le port du masque, on peut l'enlever maintenant, un peu.
Oui, oui.
On devra encore le remettre parfois.
Probablement qu'il y aura des moments où il faudra peut-être le remettre. En tout cas, je pense qu'il y a certains réflexes qu'on a acquis, qu'on devra probablement maintenir. Hein, l'hygiène des mains, on a vu que ça a quand même eu un impact aussi sur d'autres maladies infectieuses. Et que, voilà, pourquoi pas, si à un moment donné, il n'y a plus du tout de masque, se dire, ben voilà, moi j'ai un rhume, j'ai le nez qui coule, je ne sais pas très bien ce que c'est, le temps de me faire tester, je porte un masque. Un peu comme ce que font les Asiatiques, dans certains pays, quand on est malade, ben on essaye de protéger les autres et donc on met le masque. Donc peut-être que le masque va rester dans notre quotidien, mais pas comme il l'est maintenant, c'est-à-dire pas tout le temps, pour tout et partout.
De quelle couleur vous voyez l'avenir, Leïla Belkhir ? Peu importe la saison.
Moi j'aime bien le bleu, donc un beau ciel bleu quand même.
Plein d'espoir ?
Oui, toujours. Il faut de l'espoir et il faut se dire aussi qu'on a toujours peut-être en nous... cette faculté, cette capacité à avancer et en tout cas d'essayer de faire du mieux qu'on peut.
C'est peut-être ça aussi qui a motivé tous vos discours médiatiques et qui ont motivé aussi les Belges durant cette crise. Merci en tout cas pour cet entretien.
Merci à vous.
Voilà, bleu comme les couleurs de la première d'ailleurs. Leïla Belkhir, qui on vient de l'entendre, se positionne pour obliger dans certains cas le personnel des soins de santé à se faire vacciner. Débat qui va probablement s'installer dans les unités de soins dans les prochaines semaines. Grand entretien, version longue et en musique. C'est dans votre podcast Les 4 saisons à retrouver dès maintenant sur ovio.be, lapremière.be. Et sur votre application de smartphone. Vous écoutez la première, il est 8h.